Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à imposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Mester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Florent Beauvallet. La gourmandise ce matin, c'est le peintre belge Léon Spilliaert, dont j'ai déjà loué ici les graphiques paysages obscurs et désolés. Natif d'Ostende, Spilliaert dessine souvent la digue qu'il observe pendant ses flâneries nocturnes. Ses douleurs à l'estomac l'ont rendu insomniaque. C'est donc de nuit qu'il fréquente et appréhende le réel. Sur ses dessins, des visions fantomatiques de lieux déserts, la solitude des objets familiers dans la pénombre et des autoportraits hallucinés. L'artiste se représente dos à des miroirs dans des atmosphères fantastiques, l'orbite creuse, la bouche ouverte, on le croirait imaginé par Edgar Allan Poe, écrivain vénéré par le peintre, aux côtés de Schopenhauer, Chateaubriand ou Lautréamont, qui n'étaient pas des bleus en matière de spleen. Spilliaert est l'auteur d'une œuvre inquiétante et sublime qui supporte gracieusement les âmes lourdes. De la timidité avouée de notre apothicaire de l'âme émane une douceur grave. Conscient de la fatalité, notre homme semble avoir cultivé une inaltérable capacité d'émerveillement. Tout lecteur peut être l'heureux témoin de son évolution. Depuis 1957, il publie ses journaux chez POL. Le premier, intitulé « Ténèbres en terre froide », couvrait la période allant de 1957 à 1964. Dedans, un poète broyé par la peur, la solitude, la haine de soi et la douleur d'être au monde. Notre apothicaire publie des ouvrages dont les titres forment un poème secret. On trouve dedans la nuit, quelques lueurs, le travail de la terre, labour, moisson, fouille, et le froid, le lourd, l'automne, soit trois aspects de la mélancolie. Son cheminement par l'écriture, aussi vital que douloureux, sera déterminé par son besoin impérieux de se connaître, de se clarifier, se mettre en ordre, s'unifier comme il le dit, afin de se libérer de la construction sociale qui l'entrave. Le 9e volume de son journal vient de paraître, il couvre la période allant de 2004 à 2008 et porte le nom de Gratitude. Les pages semblent noircies d'encre sereine. La cruauté du réel est toujours présente, mais aux côtés d'une sorte d'acquiescement à ce qui compose l'existence. Bonjour Charles Juliet.
Bonjour, bonjour.
La première question de cette émission est rituelle. Quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
Eh bien, quand j'étais plus jeune, bien sûr que je crois qu'elle était très présente. Elle se traduisait par beaucoup d'ennui, c'est-à-dire une certaine incapacité à participer à la vie. Donc j'étais là à distance et à ne pas pouvoir vraiment m'engager dans ma vie. Donc j'étais encore noué par toutes sortes d'entraves, de problèmes, de tourments. Et j'essayais d'écrire, je n'y parvenais pas. Donc j'étais forcément dans une très grande inquiétude aussi de ce qu'allait être ma vie. Et il y avait donc cet ennui, cette mélancolie, cette, comme je vous le disais, cette incapacité vraiment à vivre.
Si vous me le permettez, j'aimerais rappeler vos débuts dans ce monde aux auditeurs qui ne l'auraient pas en tête, puisque certaines des allusions qu'on va faire en égrénant vos remèdes auront un rapport évident. Mmh. À l'âge de 3 mois, vous êtes placé dans une famille de paysans suisses. Mmh. Vous apprenez l'existence de votre mère biologique lors de son décès. Vous avez 7 ans, elle est morte de faim dans un asile psychiatrique, ça va évidemment vous hanter. Oui. De 12 à 20 ans, vous êtes enfant de troupe dans une école militaire d'Aix-en-Provence. Oui. Tout ça un rapport avec vos remèdes. Ensuite, vous vous entrez à l'école de santé militaire de Lyon pendant 3 ans et puis vous la quittez. Vous vouliez devenir médecin, mais vous la quittez pour vous consacrer à l'écriture.
Oui.
Vous avez donc vécu la vie militaire et la vie paysanne. Et vous dites ceci dans une interview, Charles Juliet, j'essaie toujours de n'être pas du côté de la négativité. Le paysan est du côté du positif. Il faut qu'il produise des choses dont autrui bénéficiera. Comment est-ce qu'on passe de ce travail vers le positif que vous entreprenez depuis toujours. À votre premier journal, à vos débuts, ou lorsque vous disiez par exemple le 25 mars 1958 « Tout m'humilie, me blesse, accroît mon dégoût de vivre ».
Oui, bien, forcément j'ai eu au début de l'écriture des années très difficiles parce que je voulais écrire, je n'y parvenais pas. J'étais vraiment dans une très grande confusion. Par ailleurs, je me rendais compte aussi que j'étais d'une immense ignorance, que je n'avais aucune culture, et donc il fallait que je me donne un peu des bases pour pouvoir écrire. Et ces premières années ont été marquées par surtout une grande avidité de lire, et puis aussi quelques notes de journal que je prenais pour moi, mais sans bien savoir ce que je faisais. Et donc, j'ai continué parce que je pense qu'il y a en moi ce besoin d'essayer de retenir, oui, ce que le temps emporte. Hein. Je suis très sensible à la fugacité, hein, au transitoire. Et donc, voilà, l'écriture a été d'une part ce besoin, hein, d'essayer de retenir, donc de préserver de l'effacement du temps et de la mort. Je crois qu'écrire, c'est vraiment lutter contre le temps et la mort. Et donc, il y avait aussi, progressivement, c'est apparu en moi, ce besoin de connaissance. Donc, pour moi, l'écriture et ce désir de connaissance étaient intimement liés, c'était indissociable. C'est en écrivant que j'ai essayé, bien sûr, de préciser tout ce qu'impliquait cette recherche de la connaissance de soi.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous n'êtes plus cet être qui confiait dans son premier journal être hébété de souffrance ?
Ah oui, bien sûr, fort heureusement.
Et donc, il y a un espoir.
Oui, oui, après toutes ces années de travail, après toute cette lente évolution, bien sûr que je sens fort bien. Et je ne peux que m'en réjouir, évidemment. Je sens fort bien que je suis très différent de celui que j'ai été. Je ne suis plus du tout dans l'ennui, je ne suis plus du tout dans cette mélancolie qui était là, qui me collait à la peau. Et donc, bien sûr que maintenant, j'adhère pleinement à la vie et à ce que je suis. Voilà.
Alors, je me réjouis déjà personnellement, j'imagine que beaucoup d'auditeurs aussi. J'annonce le sommaire dans quelques instants. Charles Juliet, vous allez convoquer le réalisateur iranien Abbas Kiarostami, des Paradis perdus, l'écrivain René Frégny, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Alain Souchon, Albert Camus et Paul Cézanne, juste après le titre Agrafe du groupe Mesparrow.
Tu vois bien qu'il se lasse. Ce ballon qui titube et traîne à bout de bras, sa caillasse. Il laisse une marque au sol.
Son nom à coup d'agrafe il prend. pensée.
À quoi d'avoir fait le pont, ces blessures devenues crevasses. Tant de polypores et corps, mais les rangs. À quoi d'avoir fait le pont, ces blessures devenues crevasses. Tant de polypores et corps, mais les rangs.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Charles Juliet et d'un petit garçon iranien.
بشین سر مغزت تکان نخوری ها بیرا میزنم مغزت رو داغون میکنم فهمیدی؟ فهمیدی؟
1987, Où est la maison de mon ami, du réalisateur et poète iranien Abbas Kiarostami. Alors avant que je traduise le dialogue en farsi que l'on vient d'entendre, pouvez-vous faire une ébauche de l'intrigue?
Oui, elle est assez simple. C'est un tout jeune enfant qui va à l'école. Là, on voit que ce sont des conditions assez misérables. Et il a un copain qui, lui, vit dans la montagne, qui arrive toujours en retard et qui est menacé d'être envoyé. Et un soir, il se rend compte que, par inadvertance, il a gardé le cahier de son copain. Donc, il court dans la montagne pour tenter de le retrouver. Il ne le retrouve pas. Et lui va faire le devoir à sa place une fois qu'il sera rentré chez lui. Et le lendemain, il arrive en retard, il se fait un peu disputer, mais voilà, il y a eu ce très bel acte de générosité à l'égard de ce copain qui était menacé de renvoi.
Là, on entend la scène où le petit garçon, héros du film, explique à sa mère qu'il a pris le cahier par inadvertance, oui, et qu'il doit aller le rendre.
Oui.
Et la mère ne l'écoute absolument pas. Elle continue de lui dire « fais tes devoirs, tu iras jouer après ». Et il lui explique la gravité de la situation. Il ne remporte aucune considération de la part de sa mère ni d'aucun adulte. Et ça m'a fait penser, Charles Juliet, à un parallèle. Quand on lit par exemple votre texte « Lambeau », où vous parlez de votre mère biologique et de la mère qui vous a adopté et de vous. Vous dites que vous n'aviez pas les mots pour vous exprimer, que vos deux mères n'ont pas eu accès à la parole et que vous leur avez redonné la parole par l'écriture. J'ai l'impression que cet enfant souffre un peu de la même chose.
Peut-être, oui. Bien, quand on est enfant, on est intimidé, on est écrasé par les adultes qui ne vous accordent aucune considération. Parfois, c'est pas toujours, mais avant, c'était ainsi. Et donc, ce pauvre enfant, il n'arrive pas à se faire entendre, d'autant que quand il s'est mis à faire ses devoirs, parce qu'on le lui disait, à tout moment, la mère venait le déranger pour lui dire « écoute, fais ceci, fais cela ». Donc, il était impossible qu'il fasse ses devoirs.
Les adultes sont assez antipathiques dans ce film. Malgré tout, l'enfant a un allié en la personne du forgeron, qui est un peu le poète du film.
Voilà, oui.
Qui est le vieux monde. Il a fait toutes les portes en bois qui sont remplacées par des portes en acier et qui lui donne une fleur.
Oui, bien sûr. Oui. C'est un très bon moment, ça, bien sûr.
Et pourquoi avoir choisi ce film? Qu'est-ce qui vous parle particulièrement dans ce film?
Ben, l'histoire de cet enfant.
Ce geste de beauté envers...
Oui, peut-être que je me suis un peu identifié à lui, ça n'est pas impossible. Mais je crois que c'est une très belle histoire et un très bel acte de générosité de la part de cet enfant.
Le film est un hommage au poète iranien Sohrab Sepehri. C'est le poème « La demeure de l'ami » et les derniers mots, il y a les derniers mots d'une strophe qui sont parfaits pour introduire votre remède suivant, je vous les lis. Puis tu tourneras vers la fleur de la solitude. À deux pas de la fleur, tu t'arrêteras au pied de la fontaine d'où jaillissent les mythes de la terre.
Le montre-moi le côté mou vient de cette espèce de paradis intra-utérin dans lequel on est plongé dans une espèce de milieu visqueux et mou. et dans lequel on se sent complètement protégé du monde extérieur. C'est une espèce de nirvana, une espèce de paradis sublime, dans l'obscurité, dans la chaleur, et dans lequel on a uniquement les visions provoquées probablement par la position des points sur les orbites.
Salvador Dali, en 1961, pour introduire votre idée consolatoire, Charles Juliet, je vais lire votre réponse en intégralité. Depuis des siècles, dans toutes les parties du monde ont été inventés des contes, des poèmes, des légendes, des mythes parlant du paradis perdu.
Oui, oui.
Il pourrait se faire que le paradis perdu provienne de cette plénitude vécue pendant la vie intra-utérine et dont certains gardent un vague mais persistant souvenir. La mélancolie est causée par ce souvenir. C'est-à-dire que le simple fait de venir au monde condamne à la mélancolie.
Voilà.
Mais oui, je suis d'accord.
Pour certaines personnes gardent ce souvenir qu'elles ne peuvent pas figurer parce que il est impossible de se le représenter, mais ça peut être une sensation très forte d'avoir connu un état de total bien-être et de ne plus évidemment le trouver dans la vie courante. Et il y a ainsi des personnes qui sont, je dirais, installées dans la mélancolie parce que subsiste en elles ce souvenir de la plénitude de l'avant-être. Et donc ce sont des gens, voilà, qui ont peut-être du mal à vivre.
Mais peut-être que cette plénitude de l'avant-être qu'on fantasme souvent, peut-être qu'elle n'a jamais existé. Peut-être que même dans le ventre de nos mères, c'était déjà une tragédie et qu'on a inventé ce paradis perdu.
Je ne crois pas. Enfin, je suis pas un spécialiste de la question, mais dans cet avant-être, les désirs sont satisfaits avant même d'avoir été éprouvés. Donc il y a vraiment une grande cet embryon vit dans ce milieu liquide, chaud, etc. Donc il est vraiment, je crois, dans un état de grande... Et comme dans les deux ou trois derniers mois, le système nerveux fonctionne déjà, donc un début de mémoire enregistre cet état-là. Parce qu'il faut quand même reconnaître que dans le monde entier, dans toutes les sociétés dites primitives, il y a toujours eu un poème, un conte, une légende qui parle de ce paradis perdu. Il faut bien que ça repose sur quelque chose. Et ce paradis perdu, bien, je crois que c'est ce paradis qu'on a connu avant de naître.
Vous avez écrit un poème sur le sujet qu'on trouve dans le recueil Moisson.
Oui.
Est-ce que vous voulez bien nous en lire un passage ?
Un passage ?
Oui, ce que vous voulez.
Je vais peut-être juste répéter ce que je viens de dire.
Mais en vers, en prose, poétique.
Ainsi sommes-nous façonnés par l'initiale perfection, par cet état de prodigieux bien-être qui, pendant quelques mois, a imprégné le non-encorné en chacune de ses fibres. Ainsi est-il probable que subsiste, en notre part la plus enfouie, l'obscur souvenir de cet état, un souvenir parfaitement insaisissable, qui ne renvoie à aucun vécu particulier, à aucune circonstance précise, à rien qui puisse être remémoré, mais qui n'en continue pas moins d'entretenir en nous la brûlure d'un manque, la lancinante sensation que nous sommes jetés dans un monde et une vie qui ne nous conviennent pas, que nous sommes définitivement maintenus au dehors, à jamais coupés de ce dedans vers lequel nous ne pouvons pas ne pas tenter de revenir.
Merci Charles Juliet, on le trouve dans le recueil Moisson. Et dans ce poème, vous dites qu'on passe notre vie à essayer de combler ce manque, de retrouver la jouissance première. Oui. Est-ce que vous y êtes déjà arrivé, même de façon éphémère ?
De combler ce manque ?
Ouais.
Oui, bien sûr.
Comment ?
Dans des moments de la vie qui peuvent être imprévisibles, ça peut être lors d'une rencontre ou lorsque j'étais jeune, lorsque je faisais du sport, j'ai fait beaucoup de rugby. Oui, ou lorsque j'entends une belle chanson qui m'émeut, bien sûr. Il y a un très beau mot aussi qui est d'origine arabe, qui est le tarak, je crois, qui traduit cet état que l'on connaît parfois de grande exultation et en même temps d'un amour immense pour la vie, pour le monde, comme cela. Et on l'a tous connu, évidemment, avec des intensités variables. Mais moi, il est certain que aussi par l'écriture, parfois, j'ai connu ces états de, eh bien, oui, de, j'ose dire, un peu extatique, bien sûr. Et ça, on ne l'oublie pas. Ce sont des moments tellement exceptionnels que, bien sûr, voilà, on y est très attaché.
Vous pensez qu'on peut s'y exercer ?
La volonté ne doit surtout pas intervenir.
Zut !
Il faut arriver à s'abandonner, et c'est très difficile de s'abandonner sans être occupé par quoi que ce soit, même pas par un désir. Le désir de cela fait que ça ne peut pas survenir. Mais c'est dans des moments comme ça, de grands vides, où l'on peut vraiment, totalement se laisser aller, totalement abandonner. Totalement. Et c'est là que peut surgir cet état.
Ayons foi dans le vide. Dans un instant, chers auditeurs, nous parlerons de littérature et recevrons la visite d'Albert Camus, juste après un titre découlant naturellement des Paradis perdus, Apocalypse, du groupe texan, je suis un peu embarrassée de prononcer ce nom devant un poète, Cigarettes After Sex. Remède à la mélancolie sur France Inter, en compagnie de l'écrivain Charles Juliet. Vous avez choisi pour l'émission un livre qui s'apparente par certains aspects à vos journaux. C'est La fiancée des corbeaux de René Frény, publié chez Gallimard en 2011. Et quand je dis qu'il s'apparente par certains aspects, c'est Déjà, René Frény a le goût des titres qui parlent de la nuit, de l'obscurité. On le connaît surtout, lui, pour ses polars, bon, en revanche. Mais déjà parce qu'il s'agit, dans ce livre, d'entrée de journal, s'étalant sur un peu plus de 7 mois de la vie de l'auteur. Ensuite, parce qu'il confie que la littérature a l'une des places les plus importantes dans sa vie. Et puis, comme vous, l'institution militaire et psychiatrique ont joué des rôles dans sa vie, mais pas les mêmes, oui. Puisque lui a écrit ses premiers mots dans une prison militaire, oui. Et qu'il s'est exercé à écrire comme infirmier dans un hôpital psychiatrique, oui. Sur le cahier de rapport.
Oui, oui, bien sûr, il a une vie très particulière, parce que lorsqu'il faisait son service militaire, je ne sais plus trop quelle bêtise il a faite, mais on l'a mis en prison.
Il est censé avoir déserté.
Voilà. Et là, il s'est sauvé, il a déserté, donc il s'en est suivi une vie très particulière à l'étranger. Et fort heureusement, après, il a eu l'écriture qui a pu l'aider, le soutenir. Et c'est vrai que j'ai énormément aimé ce livre, La fiancée des corbeaux, qui est en fait un journal, hein, comme vous le disiez. Et il y a dans ce livre une tendresse pour tout ce qui vit. Pour sa compagne, bien sûr, mais pour tout ce qu'il vit. Alors, il raconte ses balades dans le pays où il vit, du côté de Manosque, du Verdon, etc. Et vraiment, mais ce livre, c'est... Il y a longtemps que je ne m'empêchais pas de lire. Enfin, je voulais retarder au maximum la venue de la dernière feuille, parce que la dernière page, tellement ce livre me passionnait. Et vraiment, il m'a énormément ému.
C'est vrai que c'est un livre émouvant, assez nostalgique aussi, puisqu'il vit avec sa fille, qui le quitte à ses 18 ans. Il en éprouve une grande nostalgie. Mais il y a une sérénité mélancolique dans ce livre. Sans doute, ça passe par la tendresse. Mmh. Et c'est aussi assez surprenant, puisqu'il est ami avec un truand, assez rigolo, et il espionne en face de chez lui un trio de jeunes composés de 2 filles et 1 garçon qui se mettent dans des ébats amoureux un peu particuliers. On s'y attend pas du tout, puisqu'on vient de parler de la beauté de la nature, c'est très lyrique, et puis d'un coup on a ça. Ça ne ressemble à rien.
Il a gardé peut-être des amitiés avec des truands, simplement aussi parce que il est allé faire des ateliers d'écriture dans les prisons, notamment au Baumettes. Alors, quand parfois des gars qu'il a connus en prison viennent le revoir, eh bien, voilà, il y a encore des liens qui sont maintenus.
Pourriez-vous dire, comme lui, Charles Juliet, que la lecture permet d'avoir de moins en moins de chagrins réels, car les émotions sont réservées au livre ?
Oui, ça c'est peut-être un peu exagéré, parce que les chagrins, quand ils surviennent, on les vit. Mais je comprends aussi ce qu'il veut dire, parce que la lecture, ça peut aider considérablement, bien sûr.
Vous avez choisi un passage à nous lire.
Oui, j'aimerais bien vous le lire. Je suis parti, donc c'est un passage
de la fiancée des corbeaux.
Je suis parti ce matin du côté de Bannon. Je n'avais dans la poche que quelques euros pour boire un café dans le bistrot d'un village. Je ne suis jamais seul. J'ai la passion de tout ce qui bouge, de tout ce qui vit, de tout ce qui rayonne. J'ai la passion des visages, des forêts. Je peux rester des heures immobiles à observer le vol d'une buse, une pierre verte dans l'eau qui court, un rat. J'ai passé ma vie à regarder le visage des femmes. Je ne possède rien. Je me réveille le matin et je sais que tout m'appartient. Les heures, les collines qui roulent sous la lumière dès que je pousse mes volets, les mots qui sont partout, fins et noirs comme des martinets. Ils fusent, plongent, crient, rayent le ciel étincelant.
C'est très beau.
Très beau.
Je pense à ça puisqu'on aborde la littérature, dans votre livre Lambeau, vous écrivez ceci. Alors, vous vous adressez à vous-même à la deuxième personne. L'art en général et la littérature en particulier ont été pour toi un solide et constant appui. Les œuvres que tu as eu le bonheur de rencontrer, tu ne les as pas abordées en esthète mais en affamée. Jour après jour, elles t'ont accompagné et nourri, donné du courage et poussé en avant, guidé et aidé à te frayer une sente dans la forêt dont tu cherchais à t'échapper. En fait, votre vie, c'est Remède à la mélancolie, mais sur plusieurs années, plusieurs décennies.
Bien sûr, oui, les livres m'ont beaucoup, beaucoup aidé, j'ai beaucoup lu et parfois j'ai eu des rencontres comme ça avec des livres qui m'ont vraiment beaucoup marqué, imprégné en profondeur. Et donc, j'ai été en ce sens un grand privilégié hein, de pouvoir écrire et de pouvoir lire. Parce que beaucoup de personnes en ont le désir, mais n'ont jamais le temps. Et c'est pour eux une vraie souffrance.
Vous avez publié un livre qui s'appelle « Ces mots qui nourrissent et qui apaisent, phrases et textes relevés au cours de mes lectures ». On y trouve Beckett, qui a été très important à un moment de votre vie, le poète Rumi, Goethe, Artaud ou encore Camus.
Je voudrais insister sur le fait que, personnellement, je me sens et je me considère d'abord comme un artiste. Il me semble que je suis incapable de parler d'autre chose que de ce que j'ai éprouvé. Et même, j'irai plus loin, il y a en moi une sorte d'incapacité que je ne présente pas avec gloire, mais d'incapacité, en tout cas, à parler d'autre chose que de ce que j'ai longtemps éprouvé.
Albert Camus, en 1955, l'auteur d'une citation qu'on trouve dans plusieurs de vos ouvrages, Charles Juliet, « Cette force de joie et de vie sans laquelle un artiste n'est rien ». Comment l'entendez-vous ?
Bien, en fonction de ce que veulent dire ces mots, hein, la joie et la vie, c'est ce qu'on peut ressentir en lisant Camus, enfin ses premiers textes comme « Noce »,« L'été », plus tard, l'envers et l'endroit, enfin, ça sont, quand je les ai lus, j'étais jeune et ça avait eu vraiment un grand impact sur moi, notamment Noce. Et donc, voilà, j'ai découvert Camus, mais d'une manière très fragmentée, comme je le pouvais. Et puis après, je m'étais tourné vers Beckett parce que je me retrouvais hein, dans beaucoup de ses livres. Et puis après, je me suis rendu compte que ma propre évolution m'éloignait considérablement de cette œuvre de Beckett. Et là, j'étais revenu à Camus et ça avait été un retour pour moi important.
Vous parlez de votre découverte à 17 ans de l'étranger dans l'un de vos journaux.
Ah oui.
Et vous dites que quand vous lisez Camus, vous adhérez plus profondément à la vie et à ce que vous avez de meilleur entre en effervescence.
Bien sûr, parce que Camus, il avait ce pouvoir déguiser mon énergie, hein, et ça a été très important pour moi. Et puis, c'était pour moi un être, je dirais, fraternel. Hein, je ne me souciais pas de savoir qu'il était quelqu'un de très connu, mais je me sentais très proche de cet homme. Par ailleurs, d'une certaine manière et par-delà de considérables différences, je sentais que j'avais quand même de nombreux points communs avec lui, avec son enfance, avec ses débuts dans la vie. Donc voilà, c'était encore des raisons supplémentaires pour me sentir d'autant plus proche de lui.
Vous ne lisez plus aujourd'hui les écrivains des ténèbres, de la sombreur comme Beckett ?
Non, pas du tout. Non, ça c'est réglé.
On va écouter à présent votre premier antidote musical et vous me direz s'il nourrit cette lourde pierre à polir qu'est la joie.
Car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ses cartons. Et triste et sans aucun avantage, on nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, pour des cons alors qu'on est des foules sentimentales avec soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous ravage à la moquette du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval, foule sentimentale.
Remède à la mélancolie sur France Inter, avec l'écrivain Charles Juliet, dont les molécules s'agitent parfois avec grâce lorsqu'il est pris par la musique. On vient d'entendre « Foule sentimentale » d'Alain Souchon, sorti en 1993. Souchon a eu l'idée, je le cite, et bon, il attendait Laurent Voulzy qui était en retard, ça c'est pour le scoop épatant que vous désirez tous. « Je venais d'écouter les infos à la radio. J'étais entre colère et déception. Je voulais écrire une chanson pour dire que le monde était triste, qu'on vivait une ère de vide et d'hyperconsommation, et j'ai trouvé les mots « foule » sentimentale. C'est une chanson à haute teneur mélancolique, mais dont l'existence vous réjouit.
Oui, bien, elle a le mérite de désigner quelque chose d'important, qui est cette soif de consommation, qui est suivie forcément d'une insatisfaction profonde. C'est Thérèse d'Avila qui disait aussi « notre désir est sans remède ». Et c'est pour ça que, bien souvent, nous avons l'impression que la vie ne nous donne pas ce qu'on attend. Alors on cherche à combler ce manque en achetant des choses matérielles, mais en aucun cas elles ne peuvent répondre à cette faim qui est en nous, cette faim d'une vie tout à fait autre.
Une vie spirituelle, et j'emploie ce mot à dessein, puisque chez vous, Charles Juliet, la spiritualité, on peut évidemment la vivre en étant athée,
oui.
C'est la connaissance de soi, l'élévation. Oui.
Voilà, c'est ça, c'est cette connaissance de soi qui conduit forcément à un grand dépouillement, une grande simplicité, et par là même aussi après, à une ouverture aux autres. Hein. Et c'est en cela que la connaissance de soi peut s'accompagner de cette dimension spirituelle.
Votre second antidote musical est la reprise d'une chanson de Mireille et de Jean Sablon, sortie en 1935.
Puisque vous partez en voyage,
puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage. De penser à moi tous les jours.
Et retourner dans notre cœur.
2000, puisque vous partez en voyage, interprété ici par Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Il y a une galanterie charmante dans cette chanson. Qu'est-ce que ça vous évoque, Charles Juliet ?
Eh bien, ce que des millions de gens vivent, je crois, sur des quais de gare quand ils se séparent. Hein. L'être aimé part et puis l'autre reste. Et donc, il y a là forcément beaucoup de mélancolie. Beaucoup de chagrin parfois, de déception, bien sûr.
Mais c'est un remède à la mélancolie, malgré tout ce que vous venez de dire, cette chanson.
Je ne sais pas, non. C'est pour la faire ressentir aussi. Parce que malgré tout, la mélancolie, qui est une certaine prise de distance, c'est aussi une manière, peut-être aussi parfois, de mieux apprécier la vie, de se mettre à réfléchir, de se poser des questions. Et c'est peut-être là qu'on vit quand même des bons moments, même s'ils sont teintés un peu de grisaille.
Je me rappelle de Cézanne dans son atelier. Ce qui m'avait frappé, c'était le côté broussailleux de son visage. Il semblait qu'il n'y avait que des poils, un peu comme un chien barbet. Et une autre chose qui m'étonnait, c'était une bouillotte pleine de thé très noir, qui n'arrêtait pas de bouillir sur le grand poêle Godin qui était au milieu de l'atelier. Et Cézanne buvait de ce thé constamment.
La voix du cinéaste Jean Renoir en 1958, au sujet du peintre qui a votre prédilection, Charles Juliet, sur lequel vous avez écrit, Paul Cézanne. Et dans votre ouvrage Cézanne, un grand vivant, publié chez Powell en 2006, vous écrivez une lettre au peintre et vous lui dites ceci. « À l'époque où je me cherchais, vous m'avez aidé à trouver mon chemin. Ainsi, j'ai souvent été en dialogue avec vous. » En quoi vous vous reconnaissez chez ce peintre ?
Eh bien... D'abord, il a eu une vie très très difficile. Hein. Il a été longtemps rejeté, même pratiquement toute sa vie. Il était totalement incompris, simplement parce qu'il était vrai. Et donc, la vérité parfois n'arrive pas à se faire reconnaître.
Souvent.
Donc, il a eu une vie très difficile. Et puis, il a une œuvre évidemment très importante qui me touche énormément. Là aussi, j'ai mis beaucoup de temps à m'approcher de cette œuvre, à la comprendre, à la savourer. Et c'est vrai que j'ai été souvent en dialogue dans ma tête avec Cézanne. D'autant que, bien sûr, comme on le sait, il était d'Aix-en-Provence. Et moi, j'ai passé 8 ans dans cette ville, dans cette Provence. À l'époque, je ne connaissais rien de cet homme et de son œuvre, mais enfin, voilà. Donc, après coup, j'ai pu un peu mieux m'approcher. Je suis allé dans des endroits où il se rendait avec Cézanne. Je me suis baigné au pont des Trois Sautets, que sais-je. Enfin bon, tout ça, c'était des petites choses, mais qui m'aidaient à mieux parler avec lui. Donc, oui, c'est une œuvre dont je me sens très 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 proche parce que en fait, comme il disait, je suis le peintre des simples et qu'il voulait pouvoir parler à tous. Quoi. Enfin, non, là, peut-être je sais mal en parler, mais vraiment, ça a été une œuvre et un homme qui ont été très présents en moi.
Vous avez choisi. La série de ces représentations de la montagne Sainte-Victoire,
sûr,
située
oui.
À l'est d'Aix-en-Provence, car il paraît que lorsque vous aviez la nostalgie de la ville, vous consultiez des livres de reproduction de ces Saintes-Victoires.
Oui, bien sûr, oui, oui. C'est un lieu, quand on est à Aix, c'est cet énorme rocher blanc, on est obligé de le voir, et bien sûr qu'il est au centre aussi de la vie de Cézanne. Hein, il l'a peinte maintes fois, cette scène.
80 à peu près.
Ah oui, oui, oui.
Il l'a gravi, on pense même qu'il a attrapé la pneumonie qui l'emporte plus tard lors d'une séance de travail sur la montagne.
Bien sûr, oui, oui. Bien sûr, je suis allé visiter aussi l'atelier, etc., etc. Oui, oui.
Dans Gratitude, votre 9e journal qui vient de paraître chez POL, vous dites « J'aime les œuvres de la maturité. Il est important, à mes yeux, que Cézanne ait peint la part considérable de son œuvre dans le troisième tiers de son existence et ses toiles les plus importantes au cours de ces dernières années. »
Oui, oui, oui. Et il disait aussi qu'il a fait des progrès à la fin de sa vie, et moi j'ai aussi ce sentiment de faire des progrès, et d'avoir gagné en liberté, et je sens que dans mon dernier livre, ça doit, on doit pouvoir le percevoir, je crois.
Je peux vous le confirmer, ça transparaît.
Oui.
Merci beaucoup Charles Juliet d'être venu dans cette émission.
Merci à vous, merci.
Je rappelle que le 9e volume de votre journal est paru chez POL sous le titre Gratitude, journal 9, 2004-2008. Chers auditeurs, la programmation musicale et les remèdes sont sur le site de l'émission. J'espère que votre âme a maintenant le swing d'un chou rebondissant. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h.
C'était Remède à la mélancolie d'Eva Bester, une nouvelle diffusion du 17 octobre 2017 avec l'écrivain Charles Juliet. Une émission que vous pouvez réécouter ou podcaster en vous rendant sur le site de France Inter, www.franceinter.fr.